Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 25 mars 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et John Linden.
Nous commençons par les titres.
Sommet de la CEDEAO sur le Mali aujourd'hui à Accra. La Cour de justice de l'UEMOA ordonne la suspension des sanctions contre ce pays.
Au Ghana, réduction substantielle des salaires du président et des ministres face à la crise économique mondiale.
Au dialogue national en Centrafrique, la société civile s'inquiète d'une modification de la Constitution pour un éventuel troisième mandat présidentiel.
En RDC, 11 soldats et 11 civils tués dans des représailles du groupe rebelle Codeco en Ituri.
L'OTAN promet une réponse si Moscou utilise des armes chimiques en Ukraine et les Occidentaux se mobilisent face au risque de pénurie alimentaire.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Le sommet de la CEDEAO sur le Mali aujourd'hui à Accra, au Ghana, le chef de la junte au pouvoir à Bamako, le colonel Assimi Goïta, a été invité à ce sommet donc. Hier, la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a ordonné la suspension des sanctions prises en janvier par l'UEMOA contre le Mali. Le point avec Michel Joseph.
La Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, saisie par les avocats de l'État malien, a ordonné le sursis à exécution des sanctions décidées le 9 janvier par les chefs d'État de la CEDEAO. Cette décision ajoute une inconnue à la confrontation actuelle. Elle a été rendue à la veille du sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Mali, prévu au Ghana. D'ailleurs, le colonel Assimi Goïta, nouvel homme fort du Mali, est invité à prendre part à ce sommet à Accra. Jusqu'ici, la CEDEAO a conditionné une levée progressive de ses mesures de rétorsion à la présentation par les autorités maliennes d'un calendrier électoral acceptable pour le retour des civils au pouvoir. Goodluck Jonathan, le médiateur de la CEDEAO, est reparti dimanche du Mali sans être parvenu à un accord avec la junte.
Concernant le sommet de la CEDEAO au Ghana, le gouvernement malien a d'abord indiqué qu'il enverrait une délégation de 4 ministres et que le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, pourrait participer par visioconférence. Mais la CEDEAO a retenu le format du huis clos et la présence des ministres maliens n'est plus nécessaire, a tweeté le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop.
Au Burkina Faso, les avocats du général Gilbert Diendéré, l'un des principaux accusés au procès des assassins présumés de Thomas Sankara, ont demandé son acquittement hier, Yacouba Ouédraogo.
Les avocats du général Gilbert Diendéré estiment que les infractions ne sont pas constituées et que le parquet ne dispose d'aucune preuve irréfutable de sa culpabilité. Maître Abdoul Latif Dabo, un des avocats de la défense, a invité les juges à ne pas écouter la haine, mais user de leur impartialité pour rendre leur décision. M. Diendéré est aussi poursuivi pour complicité d'assassinat, recel de cadavres et subordination des témoins. Lors de sa déposition, il avait plaidé non coupable. 14 accusés sont jugés dans ce procès. Le général Diendéré, principal accusé, est présent devant le tribunal militaire de Ouagadougou, en l'absence de l'ancien président Blaise Compaoré et de Hyacinthe Kafando, toujours en cavale, et soupçonné d'avoir mené le commando qui a tué Thomas Sankara. Début février, le parquet militaire a requis 30 ans de prison ferme à leur encontre et 20 ans de prison requis pour le général Gilbert Diendéré.
Au Ghana, le gouvernement a annoncé hier la diminution de 30% des salaires des ministres et du président. C'est l'une des mesures destinées à réduire le déficit dans un contexte de crise économique mondiale. Mouamadou Oumfa.
Outre la diminution des salaires des ministres et du président, le ministre des Finances, Ken Oforiatta, a annoncé lors d'une conférence de presse hier à Accra la fin des voyages à l'étranger pour les membres du gouvernement et de l'achat des véhicules importés jusqu'à la fin de l'année. Le gouvernement espère ainsi économiser autour de 360 000 euros. Le ministre a aussi annoncé une diminution des prix du carburant de 1,6% face à la flambée des prix du pétrole provoquée par l'invasion russe en Ukraine. Les pays développés ou en développement s'affairent à prendre des décisions pour remettre leurs économies sur la bonne voie après l'impact dévastateur du Covid-19 et de la guerre actuelle Russie-Ukraine, a expliqué le ministre des Finances. Ces derniers mois, le Ghana, pays producteur de cacao et d'or, tente de faire face au poids croissant de sa dette publique, près de 80% de son PIB, en imposant de nouveaux impôts. Mais il s'est heurté à la résistance des Ghanéens qui manifestent contre ces impôts et pour dénoncer leurs difficultés, notamment la vie chère.
En République centrafricaine, la société civile s'est inquiétée d'une possible modification de la Constitution pour permettre au chef de l'État de se présenter à un troisième mandat, possibilité évoquée lors du dialogue de réconciliation nationale organisé depuis lundi dans le pays. Des amendements sont à faire à la Constitution, a affirmé le porte-parole de la présidence sans donner plus de détails.
Gervais Lakosso, membre du groupe de travail de la société civile, a dit à l'AFP « Notre inquiétude s'installe parce que certains points abordés, comme la modification de la Constitution afin d'y intégrer un troisième mandat du président, n'étaient pas au programme. » Et Siria Gonda, membre du Parti national pour un Centrafrique nouveau, a affirmé « Le changement de l'article 154 de la Constitution a été abordé mercredi et tous les participants à la commission l'ont refusé. »
En RDC, un soldat et 11 civils, dont une femme et des personnes de troisième âge, ont été tués dans la région de Lopa à Djoukou lors de représailles menées par des membres du CODECO, coopérative pour le développement du Congo dans le nord-est du pays. C'est ce qu'on a appris jeudi de sources hospitalières et locales.
Et selon la mission de l'ONU dans le pays, la situation sécuritaire s'est détériorée dans plusieurs zones de l'est de la RDC, malgré des opérations militaires en cours contre les groupes armés.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden se rend ce vendredi en Pologne, dans une ville proche de la frontière avec l'Ukraine. Hier, il a vanté l'unité de l'OTAN face à la Russie. Lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet de l'Alliance à Bruxelles, il a dit que l'OTAN n'a jamais été plus unie et répondra en cas d'utilisation d'armes chimiques par son homologue russe Vladimir Poutine en Ukraine. Le point avec Abdourahman Dia.
Pour Joe Biden, Vladimir Poutine misait sur une division de l'OTAN. Mais l'organisation n'a jamais été plus unie qu'elle ne l'est aujourd'hui, a déclaré Joe Biden. Poutine obtient exactement le contraire de ce qu'il voulait en envahissant l'Ukraine, a poursuivi le président américain. Il a promis une réaction de l'OTAN en cas d'utilisation d'armes chimiques, précisant que la nature de la réponse dépendra de la nature de cette utilisation. Joe Biden se dit aussi favorable à l'exclusion de Moscou du G20. Il a toutefois reconnu que cette décision d'exclure la Russie dépendait des membres. Le locataire de la Maison Blanche a par ailleurs exprimé l'espoir que la Chine n'aide pas la Russie à amortir l'impact des sanctions occidentales, estimant que l'avenir économique du géant asiatique était davantage lié à l'Occident qu'à son voisin russe. Washington a annoncé hier jeudi de nouvelles sanctions contre la Russie visant le monde politique, des oligarques et de l'industrie de la défense.
Par ailleurs, les Occidentaux se sont concertés hier pour répondre au risque de pénuries alimentaires mondiales, l'Ukraine et la Russie étant deux exportateurs majeurs de blé. Les pénuries alimentaires vont se concrétiser, a mis en garde le président Biden après des sommets du G7 et de l'OTAN, assurant que les États-Unis, comme le Canada, allaient augmenter leurs exportations en conséquence.
Les États-Unis qui ont aussi annoncé qu'ils allaient consacrer 11 milliards de dollars ces 5 prochaines années pour répondre aux menaces sur la sécurité alimentaire dans le monde, tandis que la France a proposé un plan d'urgence au niveau de l'Union européenne et du G7.
Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, va se rendre en Israël, en Cisjordanie, au Maroc et en Algérie du 26 au 30 mars pour parler de l'Iran et du conflit israélo-palestinien, mais aussi pour intensifier les efforts face à l'invasion russe en Ukraine, a annoncé jeudi le département d'État.
Et puis, des médecins américains ont annoncé hier jeudi être parvenus à réaliser une double greffe du poumon sur un patient atteint d'un cancer pulmonaire en phase terminale, suscitant l'espoir d'autres malades avancés.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
Le gouvernement du Ghana a annoncé hier la diminution de 30% des salaires des ministres et du président pour faire face aux effets de la guerre en Ukraine. Lors d'une conférence de presse à Accra, le ministre des Finances, Ken Ofori Atta, a également annoncé la fin des voyages à l'étranger pour les membres du gouvernement et de l'achat de véhicules importés jusqu'à la fin de l'année. Par ces mesures, Accra espère ainsi économiser près de 400 000 dollars. Au Maroc, les transporteurs routiers vont bénéficier d'une subvention de plus de 206 millions de dollars. Cette aide concerne 180 000 véhicules, dont les taxis et autocars. Des syndicats ont observé une grève de 5 jours début mars, exigeant le plafonnement du tarif des carburants et des marges des distributeurs d'hydrocarbures. L'Égypte, touchée par la hausse des prix, va demander le soutien du FMI. Les mesures prises pour étendre la protection sociale et mettre en œuvre la flexibilité du taux de change sont bienvenues, a souligné la chef de mission de l'institution dans le pays, Céline Allard. L'inflation augmente depuis le lancement en 2016 d'un programme de réforme sous l'égide du FMI qui avait alors accordé un prêt de plus de 12 milliards de dollars au Caire.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Ils sont 10 au départ et 5 seront au Qatar pour le Mondial 2022. Ce vendredi se jouent les matchs aller des barrages du Mondial Zone Afrique. Deux grosses affiches en vue, dont Égypte-Sénégal, remake de la finale de la dernière CAN. Les pharaons de Mohamed Salah sont en quête de revanche après leur échec au tir au but. En finale au Cameroun, et ont à cœur de faire la différence face au Lion de la Teranga avant de se rendre au Sénégal. L'autre choc met aux prises à Douala deux habitués du mondial, le Cameroun 7 participations, record d'Afrique, et l'Algérie 4 qui doit se racheter après sa déconvenue à la CAN éliminée au premier tour. Après une CAN mitigée conclue en quart de finale, le Maroc de Vahid Halilhodžić n'a pas le droit à l'erreur face à la République démocratique du Congo. Les deux géants anglophones Ghana et Nigeria vont aussi tenter de faire oublier leur échéance continentale ratée, sortie au premier tour pour les Black Stars et en huitième de finale pour les Super Eagles. Des 10 équipes de ces barrages, seul le Mali, qui sera opposé à la Tunisie, n'a jamais participé à la Coupe du Monde. Ailleurs, le Japon s'est qualifié pour le Mondial 2022 en battant l'Australie 2-0 à Sydney, un succès qui envoie également l'Arabie Saoudite au Qatar. Il y a désormais 17 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde dans l'Émirat, dont le coup d'envoi est prévu le 21 novembre et la finale le 18 décembre 2022. Il reste encore 15 places à attribuer. Des matchs amicaux à suivre ce vendredi. La Côte d'Ivoire fait face à la France à Marseille. L'Afrique du Sud reçoit la Guinée. Les Comores jouent l'Éthiopie. Le Cap-Vert, le Liechtenstein. Hier, un match amical au Kosovo. Le Burkina Faso, du nouveau coach intérimaire Oscar Barrow, s'est lourdement incliné 5-0. Ici aux États-Unis, la star de NBA Kyrie Irving va enfin pouvoir jouer à Brooklyn. Le maire de New York, Eric Adams, a levé l'obligation pour les sportifs professionnels de se faire vacciner afin de pouvoir exercer leur métier dans leur ville. Irving, qui refuse de se faire vacciner et ne jouait que les matchs à l'extérieur des nets, fera ses débuts devant son public demain samedi contre Charlotte. Grâce à cette décision, les joueurs de basket Knicks et Nets et de baseball, dont la saison va bientôt débuter, entre autres, pourront évoluer à domicile, même s'ils ne sont pas vaccinés contre le Covid-19. La NBA a salué la mesure, rappelant que 97% des joueurs sont vaccinés et que 75% ont reçu leur troisième dose. Cette levée de l'obligation vaccinale, qui concerne aussi les artistes, doit contribuer à la reprise économique de la ville, a ajouté M. Adams. En revanche, la mesure est maintenue pour les autres employés du privé et du public dans la ville de New York, ce qui suscite de nombreuses critiques, plusieurs syndicats fustigeant un traitement illégal.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie de nouveau, Idrissa Seboudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, le MPP, parti de l'ancien président Roch Marc Christian Kabore, exige sa libération immédiate et sans condition. Il n'est pas en résidence surveillée, mais en détention selon sa formation politique. Pour le CDP, parti de l'ex-président Blaise Compaoré, les partisans de Roch Kabore sont simplement dans leur rôle. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré explique.
Deux mois jour pour jour après le coup d'État, Roch Kabore est toujours entre les mains des nouvelles autorités. Pour les partis de l'ancien président, le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, il n'est pas en résidence surveillée, mais en détention. Alassane Bala Sakande, président du MPP.
Le président Roch Marc Christian Kabore n'étant pas privé de liberté du fait de la justice, le MPP exige par conséquent son élargissement immédiat et sans condition. Le MPP invite pour ce faire tous les démocrates et patriotes épris de paix et de justice à se joindre à lui pour exiger la libération du président Kabore. Résidence surveillée où il ne peut passer qu'une heure avec ses enfants, où il n'a pas droit au téléphone, où il n'a pas droit à des visites qu'il aurait souhaitées.
Le MPP est dans son bon rôle, parce que les partisans les plus farouches du président Roch Marc Christian Kabore puissent demander donc sa libération.
Boubacar Sanou, ancien député, premier vice-président du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, le parti de Blaise Compaoré.
Nous avons fait la même chose également avec le président Compaoré, où nous avons demandé à chaque fois que le président Compaoré retourne, et revient au pays, donc rentre d'exil avec l'ensemble des exilés. Et c'est jusqu'à présent, il ne jouit pas de l'entièreté de ses droits, notamment la mobilité. Nous pensons que ceux qui ont pris cette décision mesurent la portée, l'importance de cette décision et l'impact que cela peut avoir, non seulement sur lui-même, mais également sur la nation.
Les organisations de droits de l'homme militent aussi pour la libération de Roch Kabore. Rodrigue Namoano est le président de la CNDH, la Commission nationale des droits humains.
Dans une déclaration en date du 24 février, la Commission a condamné cette détention arbitraire parce que jusque-là, il fait l'objet d'une détention sans aucune base légale. Officiellement, l'ex-président Roch n'a pas fait l'objet justement donc de reproches ou aucun acte donc ne lui a été notifié. Ça viole les différents engagements au niveau régional et international que nous avons.
En attendant, l'ancien président Roch Kabore n'est toujours pas libre de ses mouvements. Des délégations de la CDAO avaient pu le rencontrer et avaient assuré en son temps qu'il avait bonne mine. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Mali, enterrement hier de l'ancien Premier ministre Soumeilou Boubey-Maïga, sa famille biologique et les acteurs politiques lui ont rendu un dernier hommage. Mohamed Danioko, notre correspondant à Bamako.
La cour de sa maison à Bamako est bondée. Les visages tristes sont fermés. Les témoignages sont unanimes sur ses qualités humaines et sa trempe. Thiébile Ndramé, président du PARENA, le Parti pour la Renaissance africaine, a rendu un dernier hommage à celui que l'on surnommait le Tigre.
Je souhaite ardemment que ta mort, cher frère, cher ami, cher compagnon, au lieu de nous diviser davantage, je souhaite ardemment que ta mort contribue, dans un ultime sursaut, à rassembler les filles et les fils de notre vieux pays pour le sortir des crises en cours et lui permettre de retrouver le chemin et la stabilité. Dors en paix, Isma.
Décédé à l'âge de 68 ans dans une clinique de Bamako, où Soumeilou Boubey-Maïga a été transféré depuis décembre, devait, selon sa famille, être évacué à l'étranger pour bénéficier des soins adéquats. Les nombreuses demandes et lettres ouvertes n'ont pas eu de suite favorable. Amadou Koïta est membre de la coordination des partis politiques pour une transition réussie, une coordination qui a demandé l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités. Koïta a aussi rappelé les efforts déployés par le défunt pour lever les premières sanctions contre le Mali après le coup d'État du 18 août 2020.
Membre fondateur du cadre d'échange des partis politiques et regroupement des partis politiques pour une transition réussie, Il a travaillé à la levée des premières sanctions internationales contre notre pays et se préparait à briguer la magistrature suprême lors des élections présidentielles à venir.
Haruna Sankari, ancien candidat à la présidentielle et membre du Haut Conseil islamique, a aussi témoigné.
Durant son passage à la primature, je suis membre du Haut Conseil islamique. Nous savons qu'il a beaucoup apporté sa contribution pour le Haut Conseil islamique, pour les religieux du Mali, pour l'islam en général.
Soumaïlou Boubé Maïga a été plusieurs fois ministre et premier ministre. Il est mort en détention, poursuivi dans une affaire d'achat d'équipements militaires et de l'avion présidentiel en 2014 alors qu'il était ministre de la Défense. Les nouvelles autorités qui n'ont pas permis son évacuation sanitaire ont cependant rendu hommage à un grand serviteur de l'État. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Les dirigeants de l'OTAN réunis ce jeudi en Belgique se sont convenus de fournir à l'Ukraine des équipements de protection contre les menaces chimiques, biologiques et nucléaires. Et l'Alliance Atlantique va également protéger ses forces déployées sur le flanc oriental et créer 4 nouveaux groupements tactiques en Roumanie, en Hongrie, en Bulgarie et en Slovaquie. Capoumouvilla s'est entretenu avec Jean-François Seznec, économiste, analyste politique à Atlantic Council, pour savoir si cette aide sera suffisante.
En ce moment, je pense que l'OTAN fait ce qu'elle doit faire. Je pense que le président Biden est vu maintenant en Europe comme un leader, qu'il n'était pas vraiment comme ça avant. Et je pense que ils sont sur le bon chemin pour essayer de faire le maximum pour éviter une escalation nucléaire. Donc je pense effectivement qu'ils ne peuvent pas faire vraiment beaucoup plus que ce qu'ils le font actuellement.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour que la guerre cesse?
Écoutez, ça c'est très compliqué, bien sûr. Si je savais, ça serait très bon pour tout le monde. Je pense simplement qu'une chose qui n'est pas encore faite par l'OTAN, et c'est que ce qu'il faudrait peut-être considérer, c'est voir si on pourrait faire un embargo vraiment complet sur les exportations russes de pétrole et de gaz. Mais ça serait bien sûr une solution qui ferait énormément de mal à l'Europe en particulier et surtout à l'Allemagne parce que 70% de leur gaz vient de la Russie. Mais si on pouvait vraiment limiter la consommation allemande de gaz russe, ça ferait un changement énorme sur la capacité du président Poutine de financer sa guerre.
L'économiste et analyste politique Jean-François Seznec, d'Atlantic Council.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Ici aux États-Unis, Madeleine Albright, la première femme à occuper le poste de secrétaire d'État aux États-Unis, est décédée mercredi à 84 ans des suites d'un cancer. Née dans l'ex-Tchécoslovaquie, cette ancienne réfugiée juive a d'abord été représentante permanente américaine à l'ONU. Le secrétaire général de l'organisation, Antonio Guterres, a rendu hommage à une pionnière et un modèle. Comment a-t-elle marqué la politique extérieure des États-Unis? Nani Talani a joint Ruben Joanem, historien à Minneapolis, dans le Minnesota.
Madeleine Albright. En général, on peut penser à toutes ces victoires qui dominaient l'actualité pendant la dictature de Bill Clinton. Par exemple, cette fameuse victoire du génocide en Rwanda et la situation en Europe de l'Est, effectivement, concernant les Serbes en Bosnie et tout ça. Et elle a fait montre de grand courage. Elle a toujours eu une diplomatie un peu solide, bien que ses histoires ont laissé des taches pas très élogieuses sur la réputation de Clinton. Mais en tout cas, elle a été très très influente.
Elle a été influente, mais qu'a-t-elle fait exactement sur le plan africain, par exemple?
Je pense plutôt à sa réunion avec Nelson Mandela et autres dirigeants africains. Ils ont eu des tête-à-tête où Madeleine a réaffirmé la position névralgique du continent africain dans les relations entre les États-Unis et l'Afrique. La position que l'Afrique occupe tout à fait dans les intérêts des États-Unis comme hégémonie.
Et en rapport avec le Rwanda que vous avez déjà mentionné.
Le monde a observé ce genre de massacre entre les Russes et les Rwanda. Et les Occidentaux se sont retirés de la scène. On a fermé les missions diplomatiques et on a laissé les gens massacrer les uns les autres. Donc, ça n'a pas été un moment glorieux dans l'histoire des Occidentaux avec le continent africain. De ce fait, c'est la mission diplomatique qui a été confiée à Albright. Elle a travaillé, mais ça s'est soldé par une sorte d'échec, quoi, parce qu'on n'a pas pu arrêter le massacre. Sur la RDC, moi, ce que j'ai remarqué, c'est cette relation qui laisse quelque chose à désirer entre Kabila et Clinton, et même pendant la campagne électorale de Hillary Clinton.
De façon générale, quel héritage Madeleine Albright laisse-t-elle?
Elle était une figure représentative de la cause féminine aux États-Unis et un peu dans le monde. Il y a eu ce vent d'espoir pour le féminisme en général aux États-Unis, mais un peu dans d'autres coins de la planète où on faisait un peu plus d'attention au mouvement, aux droits des femmes, à la cause féminine. Moi, je l'ai vue comme pionnière de la cause féminine. Elle a fait école aux États-Unis. Elle a influencé surtout les jeunes femmes. Beaucoup d'entre elles se sont inspirées de sa personnalité politique. Vous dites, ah bon, moi, je peux aussi devenir secrétaire d'État ou ministre des Affaires étrangères ici aux États-Unis. Donc, dans ce sens, elle a fait école, que ce soit aux États-Unis, à la tête de la diplomatie américaine et aussi aux Nations Unies.
Robin Joannem, historien à Minneapolis, dans le Minnesota. Pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seboudia et John Linden, Georges Léonard Sagnot à la mise en onde et Kelvin Fowler à la console. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Thank you.